Vivre FM podcast.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous.
Jean-Baptiste Bergès.
Dans Vivre FM, c'est vous. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie de Lyme, une maladie peu connue et pourtant on recense environ 30 000 nouveaux cas chaque année en France. La maladie de Lyme est une infection due à une bactérie transmise lors d'une piqûre de tique. Mon invité a été atteinte de la maladie de Lyme. Mais il lui a fallu 10 ans avant de connaître la cause de son handicap, 10 ans d'errance médicale pendant lesquelles elle a dû se battre face à une maladie fantôme. Aujourd'hui, elle décide de raconter son histoire pour faire connaître cette maladie qui transforme votre vie en enfer. Elisabeth Lesseau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de Vivre FM. Merci d'avoir choisi Vivre FM pour revenir sur votre histoire, histoire que vous racontez dans votre livre Face à Lyme, journal d'un naufragé, c'est publié chez Michelon. Vous avez été atteinte, vous êtes atteinte de la maladie de Lyme, hein, et il a fallu des années d'errance pour obtenir un diagnostic, une maladie qui est sous-estimée en France. Il est important d'en parler parce que c'est vrai qu'on sous-estime, il y a de nombreux cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est la maladie de Lyme?
Alors la maladie de Lyme, on prononce plutôt maladie de Lyme.
Ah, merci beaucoup.
Parce qu'en fait, elle a été découverte aux États-Unis. Donc c'est une maladie qui est principalement transmise par les tiques. Donc les tiques, c'est des acariens qui se nourrissent de sang et donc qui vivent sur les animaux. Alors principalement les mammifères, les petits mammifères et les grands mammifères. Mais aussi, elle peut être transmise par les oiseaux. Et donc, elle peut également passer à l'homme. Hein. C'est-à-dire que la tique, hein, parmi les autres, il peut y avoir des hommes.
Il y a 27 000 cas, un nouveau cas chaque année.
Oui, environ 30 000 cas. Environ. On n'a pas de chiffre précis, puisque le test qui sert au dépistage n'est pas un test très fiable. Il y a des faux négatifs comme très importants. Donc, du coup, donner un chiffre, c'est un peu difficile.
Oui, vous avez
on va dire en gros 30 000, quoi.
En gros, 30 000 nouveaux cas chaque année. Mm-hmm. Il vous a fallu plusieurs années, combien de temps avant de savoir que vous étiez atteinte de cette maladie?
Moi, il m'a fallu une dizaine d'années.
10 ans pour mettre un nom sur les symptômes, sur les mots que vous aviez.
Tout à fait.
Comment on explique justement que cette maladie soit si peu connue aujourd'hui encore?
Bah, en fait, les médecins ont du mal à la détecter. Hein, donc moi ça a été mon cas, c'est-à-dire que malgré mes symptômes, mon médecin traitant n'a pas forcément pensé à une infection. Donc du coup je suis passée au travers des mailles du filet, et c'est malheureusement le parcours de pas mal de malades. Donc il y a un manque de formation sur la maladie qui peut être dramatique.
Donc manque d'information, c'est aussi pour ça que vous avez souhaité raconter votre histoire et écrire ce livre qui s'intitule Face à Lyme, journal d'un naufragé. Racontez-nous un petit peu comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre.
Bah en fait, quand j'ai vraiment commencé à me sentir très mal dans les années 2006-2007, et que j'écris, j'ai commencé à rédiger un recueil de poèmes, hein, qui s'appelle Brie. Et Brie, en fait, ça résume vraiment ce que ma vie est devenue. Hein, c'est-à-dire ma vie a été brisée par la maladie. Et comme je n'ai pas été diagnostiquée en 2006-2007, donc la maladie a continué. Et en 2011, j'étais vraiment parvenue à un point de non-retour. Et je me suis dit, à partir de maintenant, je vais écrire tous les jours. Je vais écrire un journal pour essayer de m'en sortir. Voilà, tout simplement.
Et donc, écrire pour mettre ces mots en mots,
tout
c'est
à
ça,
fait.
C'est ce que
pour essayer de reconstituer un peu le puzzle. Hein, parce que j'avais vraiment l'impression que dans ma vie, il y avait des pans entiers qui s'étaient brisés. Voilà. Donc, écrire, c'est aussi faire un acte positif dans un environnement, dans une vie qui est devenue très négative.
C'est voilà. Vraiment la maladie qui vous a poussé à écrire, ou vous écriviez avant déjà?
Non, j'écrivais déjà avant, mais j'écrivais des nouvelles, hein, des poèmes. Hein. J'écrivais pas un journal. Là, un journal, c'est vraiment pour témoigner au quotidien de ce que je ressentais. Quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté par votre médecin, hein, pour commencer... Et ensuite aussi par vos proches, hein, parce que c'est difficile de communiquer avec ses proches quand on se sent vraiment très mal. Il y a une pudeur, il y a un amour propre qui font qu'on n'a pas envie de les embarrasser, voilà, avec ses plaintes. Donc l'écriture, c'est un levier de survie, c'est un bon moyen de trouver une issue. Voilà, c'était ça. Moi, c'était d'arriver à trouver une issue. Et en fait, j'ai écrit 4 ans ce texte, hein, jusqu'à donc 2015. Et voilà. Donc après, moi, j'ai eu le diagnostic en 2014. Et là, j'ai commencé à moins écrire, en fait, hein, parce que quelque part j'étais soulagée, j'avais plus besoin de faire sortir les choses.
On va revenir sur votre histoire tout au long de cette émission. Juste, votre ouvrage, vous l'avez conçu comment ? Comme une œuvre littéraire, votre livre ?
Ben, un journal, donc c'est la première personne, c'est sous forme de confession, on va dire. Mais c'est un texte très littéraire, oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas uniquement de la prose, donc il y a aussi mon recueil de poèmes. Et puis, j'ai aussi la chance de peindre, hein. Et donc je parle également de mon travail, hein. J'ai peint des tableaux qui m'ont aussi beaucoup aidé.
Voilà. Alors revenons sur votre histoire, Elisabeth. Juste avant, c'était quoi votre vie avant de tomber malade et d'avoir ces premiers symptômes ? Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faisiez ?
J'étais quelqu'un d'assez insouciant, qui aimait la vie, assez énergique, un travail qui me plaisait. Deux enfants que j'adorais, enfin que j'aime toujours, mais c'est vrai que la maladie a pas mal modifié mon rapport aussi à mes enfants, parce que quand vous êtes très fatigué, que vous avez plus l'énergie pour faire des sorties, etc., ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire, on n'a pas envie de se montrer sous un mauvais jour à ses proches. Donc on se protège, on se cache un peu, voilà. On porte un masque, hein. C'est ce que je dis dans mon livre, hein. On porte un masque, oui, parce qu'on a envie de rester digne, hein, malgré l'adversité. Voilà.
D'accord.
Donc voilà, donc oui, moi je faisais les choses de manière très naturelle, je me posais pas de questions. J'avais envie d'aller au cinéma, aller voir une expo. Voilà, la vie était aisée, j'ai envie de dire, quoi.
Et à quel moment les premiers symptômes sont arrivés ? Vous parlez du 27 novembre 2006, c'est ça ?
Ah non, c'est bien avant. Hein.
Avant ?
Ah oui, j'ai commencé à tomber malade. Vraiment, j'emploie le terme tomber, hein, parce qu'il y a une idée de chute. 2003-2004. Et donc, j'ai commencé à me sentir très mal à l'été 2003. Je revenais de vacances, donc a priori, j'aurais dû être très en forme. Et j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux, à me sentir très fatiguée, à avoir des espèces de perte d'équilibre. Alors ça m'a vraiment alertée tout de suite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi est-ce que je manque d'équilibre, que je n'arrive plus à marcher normalement? Des choses très violentes, hein, des symptômes agressifs, vous voyez. Et puis, ben, au fil des semaines, des mois. Alors donc, j'ai quand même consulté mon médecin, hein, bien sûr. Il m'a dit, ces problèmes d'équilibre, vous revenez de Bretagne, vous avez nagé, c'est peut-être votre oreille, je vais vous prescrire des gouttes, bon, d'accord. Je fais le traitement, puis en fait, les pertes d'équilibre deviennent quasi permanentes, c'est-à-dire j'ai l'impression que je vis sur un bateau. Je tangue en permanence, hein. Je sais pas si vous imaginez, de vivre sur un bateau.
J'imagine très bien ce que c'est un bateau, donc voilà. Je peux imaginer, oui.
Donc, le mal de mer, hein, une sensation de déséquilibre. Et puis...
Tout ce temps-là, vous continuez à travailler quand même, malgré vos...
Ah bah bien sûr, oui, je continue à travailler, mais c'est de plus en plus difficile.
Vous étiez dans l'édition, c'est ça ?
Oui, je suis correctrice en édition. Donc j'ai un travail qui est très, comment dire, intellectuel. Alors j'ai commencé à avoir aussi des troubles cognitifs, hein, c'est-à-dire une sorte de confusion mentale, hein, de brouillard cérébral. C'est-à-dire que je lisais les phrases que j'avais à corriger et je n'arrivais même plus à faire le lien entre les mots. C'était terrifiant, vraiment terrifiant. Alors en plus, j'avais des troubles visuels, hein, donc quand je travaillais sur ordinateur, je n'arrivais plus à accommoder. Donc du coup, travailler est devenu de plus en plus difficile. Hein. Et puis surtout, c'est que mon médecin n'arrivait pas à cerner l'origine de mes symptômes.
Alors comment vous réagissez justement face à votre médecin traitant qui n'arrive pas à cerner l'origine de vos symptômes, vous allez consulter d'autres personnes? Comment ça se passe? Racontez-nous.
Pendant à peu près un an, j'ai pris les traitements qu'il m'a proposés. Alors d'abord, ça a été donc des gouttes dans l'oreille. Ensuite, ça a été des antalgiques, hein, parce que j'avais des douleurs articulaires aussi. Mais rapidement, c'est la fatigue surtout qui est devenue vraiment insurmontable, hein, très très difficile à gérer. Et alors là, il a commencé vraiment à se poser des questions aussi. Donc il m'a dit, on va faire des radios. Donc on a commencé à faire une IRM cérébrale, des examens du sang, etc. Et puis, au final, il m'a dit, je vais vous donner ça. Et ça, en fait, c'était un sérotinergique. Alors, un sérotinergique, je ne voyais pas très bien ce que c'était. Alors, j'arrive à la pharmacie, le pharmacien me dit, oui, vous verrez ça, ça va vous faire remonter, vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux. Et puis en arrivant à la maison, j'ai ouvert la boîte de médicaments, j'ai regardé la notice, j'ai vu antidépresseur. Et alors là, je me suis dit, je suis dans la case dépression, de toute évidence, Bon, mais moi, je me sentais pas dépressive, c'est-à-dire je voyais pas le lien avec mes symptômes, c'est-à-dire cette grosse fatigue, ces problèmes d'équilibre. Bon, je comprenais pas quoi. Et malheureusement, ça va être comme ça pendant pratiquement 2 ans.
Ça veut dire que vous avez la maladie de Lyme et on vous soigne pour une dépression,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, pense pas à une infection en fait. Donc, moi, comme je suis très mal, je veux trouver un remède. Hein. Donc, si vous voulez, quelque part, je me suis dit, c'est ça. Je souffre de ça. Donc, je vais prendre ce médicament. Donc, c'est ce que je fais. Alors, effectivement, il y a des symptômes qui s'améliorent. Je me sens un peu moins fatiguée. Je commence un petit peu à reprendre le contrôle de ma vie. Mais au bout de 2 ans, il me dit, Madame Lesseau, je vais pas vous donner ça toute votre vie. Maintenant, il faut aller de l'avant. Aller boire un verre, rechangez-vous les idées, enfin voilà. Donc j'arrête le médicament et puis au fil des semaines, les symptômes reviennent.
Les symptômes reviennent
et de plus en plus accentués, de plus en plus graves. Voilà, et alors là c'est le chaos total parce que je me dis donc c'est pas ce médicament qui me soulage. Donc qu'est-ce que j'ai?
Voilà, vous êtes dans quel état d'esprit toute cette période-là?
Très désemparé hein. Très désemparé. Parce que une fois que votre médecin vous dit je peux pas vous proposer autre chose, je vois pas de quoi vous souffrez, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la solution? Il y en avait pas quoi, c'est-à-dire entre temps il y a eu d'autres symptômes qui étaient apparus, des espèces de secousses musculaires, des insomnies mais carabinées, je me disais je suis au fond quoi, je suis au fond du trou quoi, c'est voilà quoi. Et donc au niveau du travail c'est pareil, je commence à multiplier les arrêts maladie, donc ça va pas non plus au niveau professionnel, le directeur de la société commence à se poser des questions.
Vous plongez dans une dépression là alors que vous l'étiez pas?
Oui, on peut dire ça quelque part, c'est-à-dire Oui, tout à fait. Le terme est adéquat. C'est pas une dépression, c'est-à-dire l'origine de mes problèmes n'est pas une dépression, mais je suis bien dans un état dépressif.
D'accord. Et surtout d'être face à des symptômes, vous connaissez pas l'origine,
tout à fait.
Et face à des médecins qui eux n'en savent pas plus que vous.
Voilà.
Ça.
Vous voyez qu'en fait les médecins ne maîtrisent pas la situation, ne maîtrisent pas vos symptômes. Donc c'est très déstabilisant parce que vous savez pas à quoi vous raccrocher.
Bien sûr.
Donc là, à partir de là, ma société elle est très mal aussi. Hein, on a commencé à perdre des clients et donc au bout d'un moment, les licenciements ont commencé à tomber. Et puis j'ai été convoquée et le fait que je sois souvent en arrêt maladie a joué en ma défaveur. C'est-à-dire, il m'a dit on est obligé de se séparer de toi, on peut pas continuer comme ça. Et donc en 2010. Je me retrouve sur le carreau, toute seule chez moi. Bon, je me dis, c'est un peu l'énergie du désespoir. Voilà, je me dis, il faut vraiment que tu trouves des solutions. Et donc, je m'achète un ordinateur, je me mets à mon compte, je continue à travailler vaille que vaille, alors que je suis comme dans un état physique déplorable. Et puis, je commence à chercher sur Internet des réponses.
D'accord,
des solutions.
Des réponses et des solutions.
Voilà.
Et vous allez les trouver, c'est ce que vous racontez dans votre livre face à Lyme, journal d'un naufragé, publié aux éditions Michalon. Restez avec nous, Elisabeth Lesseau. On continue de parler de votre histoire en deuxième partie d'émission.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous.
Jean-Baptiste Bergès.
Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Lesseau. Elisabeth Lesseau qui va nous présenter son ouvrage qui s'intitule « Face à Lyme, journal d'un naufrage ». C'est publié chez Michalon. Elisabeth, vous racontez justement votre combat contre la maladie, cette maladie dont vous ne connaissiez pas en fait l'existence et le nom pendant de nombreuses années, puisqu'il vous a fallu plus de 10 ans pour diagnostiquer la maladie de Lyme. On rappelle que la maladie de Lyme provient d'une morsure de tic. Vous, c'était lors d'un voyage, c'est ça?
Non, en fait, j'étais en vacances en Bretagne, donc c'est mon... C'est mon pays d'origine, c'est ma terre natale. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'avais une sorte de rougeur derrière le genou. Et j'ai pensé que c'était un moustique. J'étais pas très loin, moustique tic, hein, mais c'était bon, voilà quoi. Et il aurait fallu, oui, que mon médecin s'alerte et éventuellement envisage que ce soit une tic, quoi.
La maladie de Lyme, on a des risques de l'attraper à chaque morsure de tique ou
Non. En gros, c'est 30% des tiques. Hein. On estime que c'est 30% des tiques qui sont infectées. Donc, c'est pas toutes les tiques, hein, heureusement. D'accord. Sinon, on serait tous malades. Hein.
Oui, et justement, on dit que les tiques, c'est important, lorsqu'on est piqué par une tique, d'enlever la tête aussi, etc. Ça a un lien avec cette maladie
De l'enlever.
Oui, de l'enlever.
Hein. Oui, de l'enlever. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un tire-tique. Hein. C'est un petit instrument. Donc, vous tournez. Et comme ça, ça vous permet de décrocher la tique sans surtout laisser la tête à l'intérieur de la peau. Parce qu'en fait, la bactérie, elle est dans la tête. Elle est dans la salive de la tique. Voilà. Donc, si vous l'enlevez avec précaution, avec un tire-tique, donc, voilà. Donc là, il n'y a pas de souci.
Donc, pendant des années, vous avez eu de nombreux symptômes. Vous avez été même traité pour dépression alors que vous ne l'étiez pas. Mmh. C'est ce que vous nous avez raconté en première partie d'émission. Et puis, un beau jour, vous vous êtes mis devant votre ordinateur et c'est là que vous avez commencé à chercher des solutions par vous-même puisque le corps médical ne vous en proposait pas. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé du coup. En quoi ça vous a aidé? Vous dites que Google vous a sauvé d'une certaine manière.
Ah oui, complètement. Mais heureusement qu'il y avait Google, hein. En 2010, je pense que s'il n'y avait pas eu Google, j'aurais continué à traîner avec cette infection, quoi, hein, à me convaincre que j'étais dépressive et qu'il n'y avait qu'un sérotinergique pour essayer de remonter la pente, quoi. Donc moi, j'ai cherché par moi-même, en fait, hein. J'ai tapé mes symptômes, hein, tout simplement, sur Internet. Hein. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à des témoignages. Alors d'abord, des témoignages de malades qui avaient des problèmes de métaux lourds, hein, des problèmes d'amalgame dentaire. Hein. Et je me suis rendu compte que j'étais porteuse d'amalgame, moi aussi, parce que j'en avais une dizaine. Hein.
D'accord.
Donc ça, c'était une première entrée, parce qu'en fait, le mercure affaiblit le système immunitaire chez certaines personnes. C'est-à-dire chez les personnes qui sont sensibles au mercure, c'est pas tout le monde, vous pouvez donc être affaibli, et du coup, les bactéries rentrent plus facilement. Vous êtes davantage infecté. Bon, alors, donc ça a été une première piste. Hein. Et donc, pendant 2 ans, ben, je me suis fait retirer, déposer mes amalgames avec précaution par une dentiste que j'ai réussi à trouver. Et là, mes symptômes se sont déjà beaucoup améliorés, notamment tout ce qui était migraine, problème d'équilibre. Pouf, beaucoup mieux.
D'accord, donc il y avait un lien avec les plombages que vous aviez.
Oui, là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un lien qui est important. Et puis, j'ai également commencé à trouver des témoignages de malades de Lyme. Et là, Lyme, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie, etc. Et puis en cherchant...
Vous en aviez jamais entendu parler de ça.
J'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit, Lyme, maladie de Lyme. Bon, puis là, j'ai commencé à chercher, pareil, hein, sur Internet, sur Wikipédia. Et donc, j'ai appris que c'était une maladie qui était transmise par les tiques. Or, en Bretagne, il y a beaucoup de tiques. Hein. Dans notre jardin, il y en avait énormément. Et je me suis donc souvenue de cette piqûre derrière le genou. Donc il y a 7 ans, hein, quand même. Et puis bon, voilà, à partir de là, je suis donc allée voir mon médecin et je lui dis est-ce que vous pensez qu'éventuellement cet état de fatigue dans lequel je suis, ces symptômes que je traîne depuis des années, ça pourrait être la maladie de Lyme? Et alors elle m'a répondu, mais la maladie de Lyme, elle est surtout répandue dans l'est de la France, pas en région parisienne a priori, etc. Et puis de toute façon, les sérologies, la plupart du temps, reviennent négatives. Donc c'est pas la peine, en gros, de suivre cette piste.
Donc elle vous prend pas au sérieux?
Non, elle prend pas cette piste-là à la lettre, voilà, on va dire. Et donc, moi j'étais pas trop satisfaite, hein. Et j'ai pas lâché l'affaire, c'est-à-dire je me suis dit bon bah très bien, je vais trouver quelqu'un, un médecin pour me faire une sérologie. Et donc j'ai contacté une association sur internet et elle m'a dit allez voir ce médecin, elle va vous faire une sérologie, comme ça vous en aurez le cœur net. Voilà, et c'est donc comme ça que je suis arrivée à Lyme en fait, parce que la sérologie elle est revenue positive. Donc elle a montré que j'étais infectée par 3 espèces de Borrelia. Qu'attaque le système nerveux, qu'attaque les muscles, les articulations et la peau. Parce qu'en fait, dans le dos, j'avais des espèces de taches. Et j'avais vu un dermatologue. Hein. Il m'avait dit, non, il n'y a rien d'anormal, etc. Et en fait, c'était ça, déjà.
Qu'est-ce que vous ressentez, du coup, une fois que, après 10 ans, justement, d'errance médicale, comme vous l'écrivez dans votre livre, une fois que vous avez enfin le diagnostic et le nom de cette maladie?
Il y a un sentiment de révolte, hein, de colère, de... de révolte, parce que colère c'est un peu fort, hein. Ça me correspond pas, mais d'avoir joué de malchance, mais pas seulement de malchance, quoi. Parce qu'en fait, je me dis que si mon médecin avait été formé à reconnaître ses symptômes, hein, dès le départ, hein, j'en serais peut-être pas là, quoi. À devoir, là, aujourd'hui, prendre des antibiotiques. Donc, j'ai dû prendre des antibiotiques pendant pratiquement un an et demi, quand même. Hein. Mais au bout d'un an, la première année était vraiment très dure. Hein. Mais au bout d'un an, j'ai vraiment commencé à revivre, hein, et à me ressentir comme j'étais en 2003. Et ça, c'est formidable. Enfin, j'ai vraiment un sentiment de soulagement, de délivrance, quoi.
C'est-à-dire que si vous aviez pris ces antibiotiques tout de suite, vous n'auriez pas eu toutes ces années, justement.
Non, j'aurais pas eu ce parcours du combattant et ce naufrage existentiel. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Ouais. Parce que quelles conséquences ça a eu sur votre... On a parlé de la vie professionnelle, mais peut-être sur votre vie sociale, votre vie de famille aussi, cette maladie.
La vie sociale est très, très amoindrie et très perturbée parce que vous êtes tellement fatigué que... Ne serait-ce qu'organiser un repas pour recevoir des amis, ça vous demande des efforts insurmontables. Hein. Enfin, on se rend pas compte quand on n'est pas malade de Lyme, mais on a une fatigue musculaire, notamment. Hein. Moi, au bout d'une heure, fallait que je m'assoie. Hein. Donc, rester debout à faire la cuisine, rien que ça. Je me souviens d'un Noël en 2006, dans ma famille, et c'était moi qui en partie m'occupait du repas, et je me disais, je vais jamais réussir à faire cuire cette dinde et à faire cette sauce que je voudrais faire. Enfin, c'était, et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Même mes proches me disaient, mais ça va, enfin, t'as pas l'air bien, assieds-toi. Ah oui, on a beau essayer de cacher, de prendre sur soi, on est quand même très, très 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 affaibli, quoi. C'est, alors ensuite, moi j'aime beaucoup la peinture, aller voir une exposition c'est problématique aussi parce qu'il faut rester debout au moins 2 heures. Tout est comme ça, tout ce qui est naturel pour vous ne l'était plus, en fait.
Et
pour moi,
et pour les proches aussi, on imagine que ça doit pas être évident, comment se positionner face
difficile.
À quelqu'un de malade, mais on ne connaît pas l'origine et le nom de sa maladie aussi.
Moi j'ai eu la chance d'avoir un compagnon très compréhensif, hein, donc quand il voyait que j'étais pas bien, il prenait le relais, notamment pour les enfants, parce que vous pouvez plus faire ce que vous avez envie de faire, hein. Tout devient compliqué, c'est-à-dire il faut chronométrer tout, il y a des stratégies à adopter pour vraiment, c'est un handicap, en fait, on est invalide, on devient invalide. Alors ça se lit pas sur notre front, hein, y a pas marqué maladie de Lyme, mais notre vie est totalement bouleversée.
Mais c'est ce qu'on appelle les maladies invisibles, il en existe d'autres, c'est vrai que c'est un handicap compliqué à comprendre et à vivre aussi, pour ceux qui le vivent.
Oui, et puis bon, malgré tout, vous avez envie de continuer à vivre normalement. C'est-à-dire que dans votre tête, dans votre esprit, vous avez envie que ça continue, mais c'est votre corps, hein, qui ne suit pas.
Alors, d'un certain côté, vous le dites dans votre livre que c'est Google qui vous a sauvé. Pourtant, on dit qu'il faut faire attention sur Internet. Il y a tout
oui,
et n'importe
bien
quoi.
Sûr.
Mais vous, sans Internet, sans le témoignage des internautes, vous aujourd'hui encore,
je
peut-être
pense que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Hein, je me répète, mais moi, c'est vraiment moi qui, par mon acharnement, ma pugnacité à essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai pu m'en sortir comme ça. C'est assez malheureux, assez dramatique de se dire que voilà, que votre propre médecin traitant ne peut pas vous soulager et vous faire sortir de vos ornières, de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. C'est heureusement que moi j'ai cherché par moi-même, hein, je répète, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où on vous a du coup pris au sérieux et qu'on a mis un nom sur cette maladie? On vous a dit, vous souffrez de la maladie de Lyme et on va vous soigner. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ça, c'est un jour que je n'oublierai jamais. Hein. C'est ce que je mets dans mon livre. Hein. Le jour où j'ai eu rendez-vous avec ce docteur, quand je l'ai vu, je suis rentrée dans le cabinet et que j'ai commencé à lui décrire mes symptômes, hein. Elle m'écoutait avec beaucoup d'attention et elle me disait, oui, je comprends très bien ce que vous me décrivez. Elle me dit, j'ai beaucoup de patients qui me décrivent la même chose. Ce sentiment d'immense faiblesse, de pas arriver à surmonter. Et puis après, elle m'a dit, mais vous savez, votre test, il est pas équivoque. Enfin, vous êtes bien affecté par une bactérie. C'est une bactérie qui provoque vos troubles. C'est pas vous qui vous imaginez ces troubles. Et on peut descendre très bas avec la maladie de Lyme, je vous rassure. Faut pas que vous croyiez que c'est vous-même. Voilà. Et alors là, je me suis dit, pour la première fois, il y a quelqu'un qui m'écoute, j'ai pas l'impression d'être une psychopathe ou une affabulatrice. Voilà, c'est ça, ça c'est le terme que je cherchais. Et c'est un immense soulagement. On a l'impression, enfin, qu'il y a un contact qui s'établit avec le médecin et que oui, voilà, on va enfin pouvoir faire confiance à un praticien et se dire, bon, elle va m'aider à m'en sortir.
Voilà. Et à ce moment-là, vous retrouvez l'espoir que vous aviez peut-être perdu toutes ces années.
Quand je suis sortie de ce cabinet, j'avais l'impression d'avoir des ailes. Comme un oiseau. Toute légère, alors que bon, il y avait encore la maladie, mais je marchais déjà plus de la même façon. Enfin, je souriais. Enfin, je pense que si les gens me voyaient dans la rue, devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui prend? Enfin,
c'était un moment de bonheur, quand
ouais,
même, malgré tout ça.
C'était un immense moment de bonheur. De soulagement, vous pouvez pas imaginer. C'était,
ce jour-là, c'était le 26 mars 2014. Vous l'oublierez pas, vous le racontez dans votre livre.
Oui.
Ce livre qui s'intitule Face à Lyme, journal d'un naufrage, c'est publié chez Michalon. Restez avec nous, Elisabeth Le Saux. Dans un instant, la suite de cette émission qui vous est consacrée aujourd'hui sur Vivre FM.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
Nous parlons de la maladie de Lyme aujourd'hui sur Vivre FM avec le témoignage d'Elisabeth Le Saux qui signe un ouvrage qui s'intitule « Face à Lyme, journal d'un naufragé ». C'est publié aux éditions Michalon, ça vient de sortir hein, il y a quelques semaines déjà.
Il y a un mois et demi
à peu près. Mmh. Elisabeth, justement, donc vous venez de nous raconter cette longue période d'errance médicale face à cette maladie. Donc vous ne savez pas ce que vous aviez. Au final, on vous a diagnostiqué la maladie de Lyme. Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Moi, je me sens bien. Beaucoup mieux.
Enfin, grâce à, du coup, au
libéré,
traitement.
Libéré, hein, on va dire.
Libéré.
Libéré, ouais. Parce que bon.
Et puis, mieux les symptômes, les...
Oui, oui, oui. J'ai retrouvé mon énergie. Alors ça, c'est... Ça faisait donc 10 ans que j'avais pas eu cette énergie pour mener une journée de front sans me poser la question, est-ce que tu vas y arriver? Là, je revis, je dirais, naturellement, normalement. Oui, voilà, c'est... Ça fait une différence énorme, hein.
Toute cette période d'errance médicale, est-ce que vous, du coup, vous avez dû vous faire aider aussi? Vous êtes allé consulter peut-être un thérapeute ou pour vous aider à surmonter cette période?
Bon, en fait, mon médecin traitant m'a renvoyé très rapidement vers une psychologue. Hein, au bout de 2 ans, je ressentais pour lui aussi un échec, hein, parce qu'il se disait, je sais plus trop que tenter en fait, hein, pour elle. Donc il m'a dit, vous avez peut-être besoin de parler, puisque c'est aussi la quarantaine, la crise de la quarantaine,
on met ça
peut-être.
Sur la crise de la quarantaine.
Et bon, je me suis un peu engouffrée là-dedans, quoi. Je me suis dit, il a peut-être raison. Peut-être que je vis mal cette quarantaine qui me tombe dessus. Il y a peut-être des choses à faire sortir dans ma vie, voilà. Donc, il y a peut-être eu des deuils, notamment le deuil de ma mère. Et donc, j'ai vu une psychologue pendant presque 1 an. Mais au bout d'un an, j'avais plus grand-chose à lui dire. Hein. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas la cause majeure de mes problèmes. Voilà, donc ça peut aider, mais la psychologue elle-même m'a dit, bon, ben, je crois que maintenant, Madame Le Saux, on n'a plus grand-chose à se dire. Finalement, vous aviez besoin d'un bon coup de pied aux fesses. C'est l'expression texto qu'elle m'a... Et alors là, je me suis dit, vraiment, on touche le fond quand même, hein, parce que qu'une psychologue vous dit ça, c'est d'une violence... J'étais vraiment... Et je me suis dit, bon, on arrête là, quoi. Là, je suis en train de me fourvoyer totalement.
C'est pas ce qu'on attend de ce genre de...
C'est pas vraiment le soutien que j'attendais. Mais voilà, c'est... Bon, je peux pas lui en vouloir. Elle-même ne savait pas que j'avais la maladie de Lyme. Donc, voilà, on en arrive toujours aux mêmes conclusions, hein, malheureusement.
Quoi. En tout cas, cet ouvrage, Elisabeth Le Saux, Face à Lyme, journal d'un naufrage, que vous publiez, c'est aussi... avant tout, un témoignage pour ceux qui ont cette maladie ou pour leur entourage. Est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs, justement, depuis la sortie du livre?
Oui, j'ai reçu des lettres assez émouvantes, assez touchantes de gens qui soit avaient la maladie, soit avaient un proche qui était atteint. Et on sent vraiment une immense détresse, hein, quand même. Les gens se demandent où est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils vont être bien pris en charge, est-ce que le traitement va marcher? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Mais surtout, ils m'ont dit merci. Ils m'ont dit merci d'avoir témoigné, merci d'avoir écrit ce livre. ça nous a bouleversés. Voilà, j'ai eu beaucoup de lettres comme ça.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit justement ce genre de courrier des lecteurs ?
Moi, j'étais très émue. Et je me suis dit, ce texte n'a pas servi à rien. J'ai fait œuvre utile. Hein. Si je peux faire connaître la maladie, c'est ça l'essentiel hein, pour moi. Là, c'est mon combat d'aujourd'hui. Après avoir combattu la maladie, je combats pour que les gens sachent voilà, qu'une petite piqûre de tic peut ruiner votre vie. Quoi.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le futur, justement pour est-ce que vous avez des projets pour justement qu'on parle de plus en plus de cette maladie, de la maladie de Lyme ?
Bah, j'essaye de communiquer au maximum, hein, bah, de faire des radios comme chez vous, d'écrire quand je peux aussi, hein, d'avoir des articles dans la presse. Voilà, j'essaye de communiquer au maximum, quoi. De répondre aussi aux gens qui m'écrivent ou qui m'adressent des mails, voilà, du mieux que je peux. Hein. Je suis pas médecin non plus, mais bon, je me suis quand même pas mal renseignée. Et puis surtout, j'ai rejoint l'association France Lyme, hein, donc cette association m'a beaucoup aidée aussi. Parce qu'en fait, parler avec des malades, ça vous permet de savoir que ce que vous ressentez, c'est pas juste vous. C'est en fait des symptômes communs et que les malades de Lyme expérimentent. Donc ils vous disent, ben oui, oui, à toi aussi t'as ça, oui, moi aussi, voilà, qu'est-ce que tu prends, comment t'es traité, comment ça marche.
Alors on parle de la maladie voilà. de Lyme, mais peut-être dans la maladie, dans le handicap plus généralement, oui. C'est important d'échanger entre malades aussi, de se donner des expériences
oui.
pour avancer,
oui,
pour
oui,
lutter.
Oui, de se soutenir mutuellement. Ça, c'est fondamental. Hein. Surtout moi, je me suis sentie comme très seule hein. pendant plus de 10 ans. Là, il y avait des jours, je me disais, j'aimerais bien pouvoir communiquer. Alors, c'est sûr que écrire et peindre, ça m'a beaucoup aidée. Mais de parler avec quelqu'un qui a le même vécu, qui a vécu les mêmes affres, ça fait une différence énorme.
Alors, vous évoquiez l'association France Lyme. Mm-hmm. Je rappelle le site internet, c'est www.francelyme.fr. Restez avec nous, Elisabeth Lesseau, puisque des auditeurs nous ont envoyé aussi des questions pour vous et vous allez leur répondre. C'est l'heure des questions des auditeurs. Et nous avons une première question d'Éric de Paris. Il vous demande si vous êtes heureuse aujourd'hui.
Oui, Éric, je suis heureuse avec un grand H. Oui, oui, bien sûr. Oui, je goûte davantage à la vie, en fait.
Alors, je rajouterai à la question d'Éric, quel regard vous portez sur ces longues années ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, j'ai envie de dire, de positif ? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif ? Est-ce qu'on peut tirer dans cette souffrance et dans cette errance médicale du positif ?
Bah, je suis quand même encore en résilience. Je suis quand même encore choquée par ce que j'ai vécu. Hein. Je pense qu'il va me falloir pas mal de temps pour sortir de tout ça, mais je vis tout à fait différemment aujourd'hui, c'est-à-dire que je goûte tous les petits bonheurs. Hein. Bon, bien sûr, j'ai encore des symptômes qui sont là, mais je relativise beaucoup plus et je relativise beaucoup plus. Oui, c'est ça.
On a une question de Patricia de Paris 12e. Elle vous demande si vous avez renoué avec la vie professionnelle.
Oui, bien sûr, hein. Tout à fait. J'ai retrouvé un travail. Hein. Où je m'épanouis pleinement. Donc c'est aussi une reconquête sur moi-même. Hein. Et ça, c'est très important. Oui, oui, bien sûr, j'ai retrouvé un travail et je vais de l'avant, Patricia.
Une autre question de Marc de Sceaux. Il se demande s'il existe des dentistes n'utilisant pas d'amalgame au mercure, puisque vous évoquez aussi ce sujet-là dans votre livre. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?
Oui, 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 bien sûr. Hein. Oui, oui, je pense qu'il y a quand même... un grand nombre de dentistes qui préfèrent ne plus poser d'amalgame. Hein. Oui, oui, c'est quand même une idée qui a fait son chemin, heureusement. Oui, oui, tout à fait.
Et Elisabeth Lesseau, avant de terminer, donc vous écrivez. Est-ce qu'il y a des œuvres littéraires qui vous ont aidé peut-être à surmonter cette épreuve, ou encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous vous permettent de tenir bon dans les moments difficiles?
Alors, je parle de Styron dans mon livre. C'est donc un livre qui s'appelle Chronique d'une folie. Mais en fait, Styron, bon, c'était vraiment une dépression hein, qu'il avait. Mais ce texte-là m'a beaucoup aidée dans les pires moments de la maladie, hein, où vraiment j'avais l'impression que je ne pourrais pas remonter, que je verrais pas la lumière. Et donc, Styron explique très bien les affres dans lesquelles il est tombé. Et comment il arrive à s'en sortir. Et ça, c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup aidé. Oui, oui, beaucoup, beaucoup.
Et aujourd'hui, il y en a d'autres. Vous êtes arrivée tout à l'heure, il faut le dire.
Avec, oui, alors je suis arrivée avec un ouvrage d'Alexandre Jolien. Un petit texte d'Alexandre Jolien qui m'a été offert par une de mes meilleures amies qui s'appelle Pascal et dont je parle d'ailleurs dans le livre. Et l'intérêt de ce texte d'Alexandre, hein, c'est d'apprendre à se dépasser, mais en lâchant prise. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas sans arrêt se dire « je vais aller mieux un jour », il faut essayer d'aller mieux aujourd'hui, dans l'instant présent. Et donc, si vous permettez, je vais vous lire une petite phrase.
Bien sûr, c'est le petit traité de l'abandon, c'est ça ?
C'est le petit traité de l'abandon. Je pense qu'abandon et détermination font bon ménage. La détermination, ce n'est pas s'accrocher au futur et affirmer « un jour, je serai guéri ». Non, c'est plutôt de dire « la guérison, c'est ici et maintenant. Quel pas je peux faire pour aller un tout petit peu mieux aujourd'hui, ici et maintenant ?» Voilà,
voilà,
c'est ça, c'est réapprendre à vivre au jour le jour et essayer de goûter l'instant présent quand on commence à aller mieux grâce au traitement.
Voilà, c'est un message qu'on peut dédier à tous nos auditeurs hein, qui traversent aussi des moments difficiles. Elisabeth Lesseau, vous avez des projets d'écriture ? Vous aimeriez écrire d'autres livres maintenant ?
Oh bah je continue d'écrire. Hein, toute façon, j'écris des nouvelles. Là, en ce moment, justement, j'ai écrit une nouvelle sur les migrants, hein, sur un migrant qui quitte l'Érythrée. Voilà, c'est encore une autre thématique. Hein. Mais oui, je continue d'écrire. De toute façon, je ne peux pas vivre sans écrire et peindre. Ça, c'est. Mais j'écris pas de la même façon. Je pense pas que je réécrirai un journal. C'est-à-dire, ça, c'est derrière moi. Voilà. J'essaye d'aller de l'avant. C'est important.
C'est important d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Elisabeth Lesseau, d'être venue témoigner sur l'antenne de URFM. Je rappelle votre ouvrage, Face à Lyme, journal d'un naufragé. C'est publié chez Michalon. Voilà, un livre à mettre entre toutes les mains. Et puis, il faut parler de cette maladie de Lyme de plus en plus pour qu'on connaisse l'existence de cette maladie.
Oui. Merci de m'avoir reçu.
Merci, au revoir.
Vivre FM, podcast.